Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nouveau rebondissement dans l'affaire Betaram avec une deuxième personne mise en examen pour viol, un des rares cas pour lesquels les faits ne sont pas encore prescrits. Un témoignage RMC exclusif ce matin, celui du père de famille qui a mis fin au passage à tabac d'une jeune collégienne à Saint-Genis-Laval près de Lyon. Il raconte le déchaînement de violence auquel il a assisté. Et puis Fabien Galthié a bien fait de sélectionner Mathieu Jalibert. Le numéro 10 a surperformé hier pour son retour en bleu face à l'Irlande en ouverture du tournoi des Six Nations.
L'affaire Betaram prend un nouveau tournant ce matin.
Avec la mise en examen pour viol d'un deuxième membre de l'établissement catholique, le parquet de Pau l'a annoncé hier soir. Et cette fois, ça n'est pas un surveillant, mais un ecclésiastique d'une soixantaine d'années qui est visé. Un homme qui n'avait jamais été entendu par les enquêteurs jusqu'à cette nouvelle plainte, Constance Bostoen.
Oui, un ancien élève de Betaram a porté plainte pour des faits qui ne sont pas prescrits. Selon le procureur de Pau, il dénonce un viol commis par un ecclésiastique entre 1993 et 1996, alors qu'il est scolarisé dans l'établissement. Le prêtre, qui n'avait jamais été entendu depuis le début de la procédure, conteste les faits qui lui sont reprochés. Dans cette affaire, 250 anciens élèves ont déjà porté plainte et jusque-là, seul un ancien surveillant avait été mis en examen pour viol et agression sexuelle. Cela confirme l'intuition de départ de l'existence d'un réseau pédocriminel, réagit auprès d'RMC Alain Esquer. Le porte-parole du collectif des victimes de Betaram se félicite de cette nouvelle avancée et il exprime son immense reconnaissance à la victime.
Il est 7h32 et on vous en parlait hier sur RMC, l'agression ultra-violente d'une collégienne à Saint-Genis-Laval près de Lyon. Agression filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis, la vidéo a été supprimée et deux adolescentes âgées de 14 ans ont été arrêtées et placées en garde à vue. Ce sont elles qui sont soupçonnées d'avoir roué de coups leurs camarades à la sortie des cours vendredi dernier. Une scène insoutenable à laquelle ce père de famille a assisté avant d'y mettre fin. Il témoigne ce matin au micro RMC de Philippine Boulet.
Au volant de sa voiture, Marc reconnaît ne pas tout de suite comprendre ce qu'il se passe lorsqu'il aperçoit une adolescente au sol.
Il y a une fille qui s'est approchée d'elle, donc je pensais qu'elle allait l'aider à se relever ou voir ce qui se passait. Et au lieu de ça, il lui a mis un coup de pied dans la tête. Un coup de pied, deux coups de pied, trois coups de pied, ça s'arrêtait pas.
Il sort de son véhicule.
J'ai dû crier quelque chose du genre « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ?» ou quelque chose comme ça.
Les agresseuses présumées ont 14 ans. Un choc pour ce père de famille.
Cette fille-là qui lui mettait des coups de pied dans la tête au sol, alors qu'elle était déjà en perte de connaissance ou je sais pas, enfin, je me suis dit, c'est pas possible, une telle violence.
Pendant qu'une adolescente donne les coups, une autre enregistre la scène.
Je me suis dit, on est vraiment dans les stéréotypes de la violence d'aujourd'hui qui est filmée, qui est mise sur les réseaux. Là, de le voir, je me suis dit, mais en fait, c'est réel et ça peut être aussi dans le collège de mon gamin, quoi.
Marc aimerait maintenant rencontrer les parents de la victime et prendre de ses nouvelles.
À Sanary-sur-Mer, l'enseignante du collège La Guicharde, toujours dans un état préoccupant, et le collégien de 14 ans accusé de l'avoir poignardé, placé en détention provisoire. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a ouvert la porte à une interdiction des jeux vidéo aux mineurs, certains jeux les plus violents, si et seulement si un consensus scientifique émerge des travaux qui seront confiés au Conseil national du numérique au printemps prochain. Il est 7h34 sur RMC et c'est la question ce matin, où est passé l'argent dédié à la réindustrialisation de la France? On a atteint un niveau d'investissement record l'an dernier. Le gouvernement s'en était même félicité là, à l'occasion du sommet de Choose France. Et pourtant, Clara Gabillet, il n'y a jamais eu aussi peu de création d'usines depuis 2013.
Oui, il y a eu plus de fermetures que d'ouvertures d'usines en 2025. Des fermetures dans l'automobile, la métallurgie, l'imprimerie, le textile ou encore la fabrication de meubles. La courbe ne s'est jamais redressée pour ces secteurs selon le cabinet d'analyse économique. Cela concerne particulièrement les PME, mais toutes les tailles d'entreprises sont concernées. L'industrie pharmaceutique est aujourd'hui au point mort. Les rares secteurs qui se portent un peu mieux, l'aéronautique, le traitement des déchets et la production d'énergie qui ont donné lieu à peine plus de 5000 créations d'emplois l'an dernier. Bilan très sombre hein, malgré les discours du gouvernement pour impulser une réindustrialisation. La réalité est que les investissements se portent davantage sur le numérique. Sur les 125 milliards d'euros mis sur la table l'an dernier, plus de la moitié concernait ce secteur.
Les précisions de Clara Gabillet pour RMC. Il est 7h35 et eux ne sont pas prêts à lâcher leur couronne du tournoi des Six Nations. Les Bleus du rugby l'ont bien prouvé hier au Stade de France en battant l'Irlande 36-14. Les joueurs de Fabien Galthié qui ont retrouvé leur capitaine Antoine Dupont. Mais c'est surtout Mathieu Jalibert qui a brillé hier soir. Le numéro 10 était très attendu pour son retour en bleu, Julien Landry. Et on peut dire qu'il a répondu présent.
Mathieu
Oui, tout le monde attendait de voir si Mathieu Jalibert étincelant avec Bordeaux allait éclairer le jeu des Bleus. Il a parfaitement assuré son rôle après une entame timide. Son essai à la 22e minute l'a libéré. Il ne voulait rien regretter.
Je voulais surtout ne pas avoir de regrets, donner tout ce que j'avais sur le terrain et sortir la tête haute.
Ensuite, il a enchaîné les gestes de classe, comme le petit coup de pied par-dessus pour laisser d'Olivon la passe décisive pour Atisogbe. Son coéquipier Louis Bielbiaré a apprécié sa partition.
Trouvé très bon, très à l'aise. Je suis très content pour lui et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui.
Même en défense, il s'est envoyé dans un secteur où il est scruté. Il termine avec un 11 sur 12 au plaquage, la récompense de son travail.
Là, ça fait maintenant 2 ans que je travaille énormément sur ce secteur et je suis content de voir que ça marche aussi au niveau international.
Un an après sa dernière apparition en équipe de France, il a probablement réalisé son meilleur match sous le maillot bleu, mais lui-même le sait.
Comme je dis, le week-end le plus compliqué, c'est toujours celui d'après, donc il faut continuer sur cette voie.
Et le prochain rendez-vous, c'est au Pays de Galles, dans 9 jours.
Et voilà, ce prochain match, le week-end prochain.
Le Quintet, Élise, 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Killer Rain. L'outsider, c'est le 7, Force of Nature.
C'était le journal d'Élise dans Jean, il est 7h36 sur RMC.